Gaby, bonjour.
Bonjour.
J'ai la chance de te recevoir aujourd'hui. Tu es entre deux étapes, après l'Angleterre. Tu pars aux USA, mais avant de nous raconter ton futur, tu vas nous raconter ton parcours.
C'est exact. Donc, j'étais ancien élève du lycée français de Barcelone. J'ai fait ma terminale S ici. J'ai aussi passé le BIA, donc c'est le brevet d'initiation à l'aéronautique. Je vous recommande vivement de le faire si vous avez comme projet de poursuivre vos études dans le métier des ingénieurs aéronautiques ou pilotes tout comme moi. En tout cas, c'est une chance de le faire, donc profitez-en. C'est quand même passionnant, surtout quand on est passionné d'aviation, vous pouvez imaginer. En fait, en sortant du lycée français, il faut passer des sélections pour rentrer dans les meilleures écoles du monde d'aviation. Les sélections, ce n'est pas comme des concours qu'on peut trouver après le bac, c'est des sélections plutôt psychomoteurs, psychotechniques. C'est-à-dire qu'on va faire des tests de motricité, on va faire des tests de simulateurs, on va aussi faire des tests de maths, physique, de mémoire visuelle, ainsi que de vitesse. Ils sont faits de façon à voir aussi la progression en deux fois. Donc c'est quand même assez aigu. Il faut bien se préparer pour ça. Il y a des sites en ligne qui vous préparent si jamais vous êtes intéressé. En tout cas, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Finalement, après ça, quand on a passé cette sélection, on passe à faire des entretiens. Il y a notamment un gros entretien qui, pour moi, a duré entre 30 et 40 minutes, où en fait, on va vraiment voir le profil que va pouvoir vendre cette école face aux compagnies aériennes qu'on veut être. Une fois qu'on est pris, c'est le bonheur, c'est la gloire, on fait ça. J'ai dû attendre quelques mois avant de pouvoir commencer mon école et j'en ai profité pour être coordinateur de vol à l'aéroport de Barcelona-La Plata. Je travaillais pour une entreprise de handling, donc en fait mon rôle c'était d'être le directeur d'orchestre de toutes les opérations au sol quand un avion arrive jusqu'à que l'avion départ. En tout cas, c'est de la très bonne expérience professionnelle. Si vous êtes intéressé à trouver des jobs assez facilement à l'aéroport, il y a beaucoup de demandes, tant dans les boutiques comme dans le secteur aussi aérien. C'est aussi un coin à regarder pour tous ceux qui seraient potentiellement intéressés. Puis j'ai pu finalement rentrer dans mon école, c'était en février de cette année. L'école se divise en quatre parties, donc cette première partie que je viens de compléter s'appelle la Ground School. C'est l'époque la plus compliquée, c'est l'époque où on va beaucoup travailler, c'est l'époque où on va vraiment souffrir, entre guillemets, toute cette émotion qu'on a pour les avions, parce que bon, quand même, c'est pas toujours facile. C'est l'époque où on les étudie les 14 matières que comprennent l'ATPL, en fait, donc la Airline Transport Pilot License. Il y a différentes matières, par exemple météorologie, il y a aussi radionavigation, il y a aussi flight plan, donc c'est comment on prépare nos vols. Donc vous voyez un peu, c'est quand même très très pratique, on n'est pas du tout dans l'abstrait, ce qui quand même rend la chose très intéressante car depuis le début, depuis le cours 1, on va commencer, on va aller à fond et on va vraiment étudier la machine. Dans la seconde partie, nous allons partir vers les États-Unis à Phoenix, faire nos heures de vol, car après toute la Ground School, donc c'est un peu comme la théorie, comme si c'était un permis de conduire, il faut la pratique et en fait c'est aux États-Unis qu'on l'a fait tout simplement, là-bas le fuel est beaucoup moins cher qu'en Europe, donc c'est vraiment très très rentable de le faire là-bas. En tout cas, c'est le bonheur à Phoenix, vous pouvez imaginer, vous prenez un avion tous les matins, vous faites un petit tour avec vos collègues, avec vos instructeurs, enfin bon, c'est la belle époque quoi. En revenant, on repasse à Oxford, on passe sur des avions beaucoup plus gros, on fait ce qu'on appelle notre vol instrumental, donc en fait on s'entraîne à voler sans regarder dehors, on nous met une espèce de lunette dans les yeux et on peut que regarder nos instruments, on va nous enseigner à se guider de façon très précise sans pouvoir regarder dehors, ce qui est quand même assez complexe et quand même une étape plutôt stressante. C'est moins le vol relax de Phoenix, c'est plus du vol appliqué à la vie réelle dans les conditions météo plutôt défavorables. Et puis finalement on fait notre MCC, en fait on le fait dans un simulateur de 737, c'est là où on va nous enseigner à communiquer avec notre partenaire car 80% de notre communication se fait aussi visuellement. Du coup, vous pouvez imaginer que dans le cockpit, les pilotes, ils se regardent pas, chacun regarde les instruments. Donc toute cette communication visuelle n'est plus là. Ils nous entraînent à suivre toutes les procédures pour avoir une bonne communication verbale, pour pouvoir bien s'exprimer même si on ne se regarde pas en face. Quand on a fait tout ça, on reçoit notre petite licence qui est un bout de papier plus petit qu'une carte de crédit, hein, qui vaut très très cher. Après ça, ben, c'est le bonheur, on part dans les compagnies aériennes, on vole, et puis voilà quoi, c'est le destin, hein.
En quoi la radio t'a servi ?
Bah, la radio, ça donne quand même une confiance au micro. On n'a pas peur, en fait, notamment pour parler aux contrôleurs aériens. Enfin, c'est vrai qu'au début, on est quand même très impressionné. On parle à des contrôleurs aériens, ils sont là professionnels, ils sont là pour vous guider. Mais c'est quand même très imposant. Donc au début, on a la voix qui titube, etc. Mais quand on a déjà parlé devant un micro, ça nous donne un petit air plus confiant. Et aussi, on est plus confiant sur nous-mêmes, ce qui est très important en avion. Car douter de soi-même quand on est aux commandes d'un avion, c'est pas le bon plan, quoi.
Oui, parce qu'il faut rappeler que tu as été ici quand même à la radio pendant 7 ans.
Exact.
À animer des directs.
Oui.
Au départ en groupe et puis après tout seul.
Exactement, j'ai poursuivi avec Pause Café. J'en profite pour saluer Guillaume, mon ex-camarade de radio. Hein. Il est à Lausanne, il fait de l'hôtellerie, il va quasiment finir maintenant. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de futur après l'école quand même. Il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas que les prépas, il n'y a pas que les ingénieries. Je vous encourage à regarder d'autres options, c'est mon opinion personnelle, mais on nous encourage beaucoup à poursuivre les études classiques. Sachez qu'il y a quand même d'autres options dans d'autres métiers qui sont tout aussi respectables et tout aussi sympas à faire finalement.
Un petit mot sur ton uniforme. J'aimerais que tu nous expliques.
Alors l'uniforme, nous avons comme toujours une chemise, une cravate, etc. Et après nous avons ce qu'on appelle les galons. Donc les galons, c'est les espèces de barres qu'il y a sur les côtés, sur nos épaules. Donc quand on a une barre, en fait, ça veut dire qu'on est étudiant de vol. Quand on reçoit notre licence de pilote commercial, on a notre deuxième barre. Donc on a deux petites barres et en plus elles sont dorées, donc on est tout content. Après, quand on rentre en compagnie aérienne et on passe les 1500 heures en général, on reçoit notre troisième barre. Donc on passe à être un first officer. Et quand la carrière a déjà bien commencé, qu'on est bien stable, qu'on a beaucoup appris dans l'aviation, normalement on nous propose d'être capitaine. Au minimum, on a besoin de 3000 heures de vol. Ça peut s'étendre à 5-7 000 en dépendant des compagnies aériennes. Et puis après, on a les belles 4 barres avec lesquelles on termine notre carrière en beauté.
Je voulais juste revenir à l'école. Tu as fait un bac S.
Exactement, oui.
C'est ce qu'il fallait faire.
Le bac S, ça donne quand même une sécurité au niveau maths, physique, parce que bon, il y en a quand même un peu. C'est vrai que le niveau n'est pas très complexe en soi-même dans le niveau au calcul, mais par contre, il faut vraiment bien comprendre ce qu'on nous raconte, parce que les examens se déroulent en QCM, en fait. C'est une question avec 4 réponses, et il y a 2 réponses qui sont incorrectes, mais qui sont moyennement incorrectes, donc elles sont potentiellement correctes. Et après, il y en a 2 qui sont correctes, et il faut choisir la plus correcte des 2. Vous pouvez imaginer que c'est très très compliqué, il y a des fois, on doute de nous-mêmes, et c'est là pour justement voir si on est capable de surmonter ce doute, et aussi de faire attention aux petits détails, parce qu'en avion, chaque petit détail compte. Si on ne voit pas une petite lumière, peut-être que c'est un truc très important qui est en train d'arriver à notre avion. On nous entraîne à ça depuis le début, et d'ailleurs, bon, en tant qu'élève, c'est un peu frustrant des fois quand même, mais quand on réfléchit bien, on prend du recul, on se dit que finalement c'est une bonne chose qu'on s'entraîne depuis le début, parce que bon, finalement c'est quand même une grosse responsabilité qu'on va avoir.
Par rapport aux langues,
ma formation s'est déroulée complètement en anglais, avec des instructeurs anglais qui ont des accents irlandais, de l'Angleterre, etc. Donc bon, cette formation se situe à Oxford également, qui ont leur propre accent. Donc vous pouvez imaginer que oui, il faut bien se préparer à l'anglais, spécialement si vous allez faire vos études en Angleterre. Comme je disais, ces questions, elles sont très très wordy, on appelle ça en anglais. Le langage est très très important, donc il faut vraiment avoir une profonde compréhension de l'anglais. Donc je vous encourage à vraiment travailler dessus, sinon ça va être la cata pour vous et vous décidez d'être pilote. Et également pour les examens d'anglais, car pour être pilote, il y a aussi des examens d'anglais. C'est des examens de télécommunication et ça va d'un niveau de 1 à 6. Donc vous pouvez imaginer que le but c'est d'avoir 6 sur 6, mais c'est quand même très très difficile. Même il y a des Anglais qui n'ont pas le niveau 6. Donc c'est des examens à préparer, il faut être bon en anglais quoi, en gros.
Un petit message à passer à nos auditeurs.
Je vous souhaite le meilleur. Je ne peux pas vous expliquer avec des mots le bonheur que c'est de pouvoir vraiment faire ce qu'on aime, ce qu'on a toujours adoré de faire. Essayez de vraiment vous laisser faire par ce que vous aimez, même si parfois ça peut être un peu complexe, ça peut être une situation qui vaut de l'affrontement avec vos parents ou avec la famille. Ça peut toujours valoir le coup et franchement, faire ce qu'on aime, c'est aller en cours le matin, y aller avec un gros sourire, avoir aussi une bonne cohésion de groupe parce qu'on se retrouve avec des personnes qui aiment la même chose que vous. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié, que j'ai énormément valorisé à Oxford, parce que franchement, depuis toujours, passionné d'aviation, faire des études d'aviation, on peut pas rêver mieux quand même.
Merci Gabi.
Merci à toi, bonne journée.